l'ami Jean-Louis pour balade intertropicale de 17h à 19h. Et JP et Marcel demain midi de 12h à 14h pour Ambiance Soleil. Salut, bon réveillon de Noël à toutes et à tous. Pas d'abus. Et rendez-vous samedi prochain. Nous serons 28 juste avant le premier de l'an. Salut. Et là, je vous laisse avec Polymix. À samedi prochain. Bye bye.
Pas grand chose. Des petits gamins qui savent pas forcément parler, c'est des petits, faut aller les tirer, c'est un boulot, c'est un sport de combat aussi, c'est comme la sociologie. Hein. Mais c'est vraiment le système de démerde-toi tout seul. On se démerde entre nous, on se fait des réunions. Comment on fait pour lui là, qui va pas bien? Comment on va lui faire vivre une bonne journée quand même à lui? C'est un petit qui a envie de mordre, qui a envie de se rouler par terre. Nous, on en a plein à l'école, des gamins en colère. Faut les gérer, hein. T'as des enfants qui savent pas du tout ce que c'est, la collectivité. Il nous manque des moyens, avoir des CPE dans les écoles, des assistantes sociales, des psychologues. Même pour nous aider, nous, hein, parce que des fois, il se passe des choses qui nous affectent. Hein. Quand t'as des gamins qui te parlent d'un... t'es obligé de te remplir ta fiche toute seule, hein, d'enfant en danger.
Oh, les profs, toujours à se plaindre, toujours en vacances. On a tous entendu cette rengaine, hein. On va voir aujourd'hui que c'est pas exactement la réalité. Salut les amis, c'est la voix off, c'est JBD, avec des profs en grève, en rébellion, en colère. Profs pas seulement révoltés par la casse volontaire du système des retraites, profs aussi en colère contre le sabotage de l'école, contre la marchandisation de l'éducation. Prof en colère contre la casse délibérée de toute notre société. Prof en grève et en manif, ça date pas d'hier. Ils étaient déjà dans la rue, notamment en 1995, en 2003, et déjà à l'époque, contre la casse des retraites qui n'est que la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Salut Isabelle.
Bonjour.
Salut Sylvain.
Salut à tous.
Isabelle, quand on parle dans la conversation, en fait, comme ça, on dit « ouais, elle est instite ».
Moi, je dis à mes chefs que je suis instite de base, alors ils me disent « de base », bah oui, dans la classe. Sinon, ma fonction, c'est professeur des écoles, là.
Et ça fait combien de temps que tu fais ça ?
28 ans.
Où ça ?
Dans un quartier populaire à Saint-Pierre-des-Corps. Petit début de carrière dans la campagne, avec une population un peu paupérisée, tout ça. Hein. Ça existait déjà il y a 30 ans. Puis là, dans un quartier urbain, populaire, dans deux écoles.
C'est des enfants de quel âge ?
Maternelle, je ne sais pas faire mieux. Ouais, c'est bien, c'est fait. De 3 à 5 ans. Ils partent à 6 ans en CP.
Et aujourd'hui, tu parles à ce micro, donc en tant que professeur des écoles, pas de casquette ou de représentation politique ou syndicale ?
Aucune.
Sylvain ?
Prof en lycée professionnel depuis 2002, donc ça fait 17 ans. J'ai fait deux établissements, j'ai fait une dizaine d'années dans un lycée industriel à Tournord, donc avec le public de lycée professionnel des lycées industriels, c'est-à-dire beaucoup de jeunes qui n'avaient pas choisi ces filières, même si c'est un peu caricatural aussi de dire ça, parce qu'il y a toujours des choses qui sont un peu plus complexes. Et puis maintenant, depuis donc 7 ans, je suis dans un lycée qui est à jouer les tours, un lycée des métiers d'art. C'est un tout autre public, mais c'est aussi quand même un public de lycée professionnel. Il y a des classes de 3e intégrées dans le lycée, ça fait des jeunes qui ont de 14 ans. Dans mes classes, je peux avoir maintenant jusqu'à des jeunes qui ont 19-20 ans. Quand j'ai commencé ma carrière, je pouvais avoir des jeunes un petit peu plus âgés, parce qu'à l'époque, il y avait du redoublement. On passait plus d'années au lycée professionnel, parce qu'il y a eu des réformes depuis qui ont réduit le nombre d'années qu'on passe dans les LP avec la mise en place du bac pro 3 ans, qui a été une catastrophe pour les publics de lycée pro. Donc maintenant, on va dire ouais, de 14 à 19-20 ans.
Tu parles à ce micro en tant qu'enseignant et puis tu es aussi politiquement engagé dans le nouveau parti anticapitaliste, ONPA.
Pour moi, c'est un tout, c'est-à-dire que je suis un militant qui est enseignant et qui essaye dans son enseignement de défendre un certain nombre de choses auxquelles je crois. À partir de là, bah, j'ai un engagement syndical dans mon établissement et puis un peu au-delà dans le département. Et puis, je suis un militant politique voilà, du nouveau parti anticapitaliste. Et voilà, je me suis présenté à quelques élections. Ce n'est pas un truc qui est caché, ni évidemment pour mes collègues, mais ni pour mes élèves non plus. Voilà, c'est quelque chose qui est public.
Et quel syndicat ?
La CGT Éducation. On est des gens qui sommes engagés et puis ça se décline sur, sur plein de terrains. Mais pour moi, ouais, c'est un tout.
La retraite à point !
On en veut point !
La retraite à point !
On en veut point !
La retraite à point !
On en veut point !
Il y a beaucoup de monde en colère dans les rues pour ce mouvement social de cette fin d'année 2019 contre la casse du système des retraites. Beaucoup de monde, beaucoup de colère, mais aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne humeur combative, d'humour, et aussi de la musique et des chansons.
Enseignant, la colère gronde à la vue du projet Macron. Cette loi fait l'effet d'une bombe, on ne va pas donner notre opinion. Enseigner, oui, 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 exécuter, non, 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 imposons d'autres solutions. Enseigner, oui, 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 exécuter, non, 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 imposons d'autres solutions. Enseigner, exécuter.
Toujours à propos de chansons, en voilà une autre, beaucoup moins drôle, que vous connaissez par cœur au sujet des profs. Les profs, un ramassis de fonctionnaires, de gauchistes planqués toujours en vacances, des feignasses qui passent leur temps à se plaindre pour défendre leurs privilèges, Isabelle. Toi aussi, tu la connais, la chanson.
Déjà, il y a une collègue infirmière qui en avait marre de travailler un week-end sur deux. Et elle s'est dit, je vais devenir prof, ça va être tranquille. Alors, elle est devenue remplaçante. Et au lieu de travailler un week-end sur deux, elle travaille tous les week-ends maintenant. Et donc, elle ne voit pas plus ses enfants à elle. Voilà, bah on passe du temps dans notre boutique. Hein.
Je peux donner un tuyau aux jeunes qui voudraient devenir prof. Faites pas prof de français. Maths, c'est mieux, les copies, c'est moins embêtant à corriger, mais prof de français, c'est l'enfer. Il y a l'orthographe, la grammaire, les fiches de lecture, les rédactions, les machins. Mon père a fait le calcul hein, sur toute une carrière. Ça se traduit en tonnes de papier ramenés à la maison sous forme de copies pendant toute une vie. Tout ça pour dire que prof, c'est pas que pendant 35 heures, ça se continue aussi à la maison.
À la maison, dans la classe, auprès des familles, auprès de différentes actions auxquelles on s'inscrit parce qu'on a envie que l'école bouge, l'école vive, que les enfants fassent des choses intéressantes. Donc on s'inscrit dans des projets qui nous prennent du temps parce qu'on a une maladie de réunionite. Ça prend du temps de s'organiser, d'organiser un festival de danse, ça prend du temps. Ça prend du temps d'organiser une exposition de plein d'enfants de Saint-Pierre-des-Corps, ça prend du temps. C'est du temps perso, moi c'est du temps de militants de l'enfance, entre guillemets. Parce que si nous, on ne le fait pas, ce temps-là, si on ne le prend pas, personne ne l'organisera à notre place. Et on ne veut pas que ça soit quelqu'un d'autre qui l'organise à notre place, en plus.
Tu travailles plus de 35 heures par semaine?
Un peu plus, ouais. Un petit peu plus, ouais. La moyenne hebdomadaire, c'est 40 heures. Mais par exemple, au mois de septembre, moi, j'ai fait 3 semaines à 50 heures. Quand tu calcules vraiment et que tu calcules tout, ça atteint 50 heures en début de période, là où il faut tout organiser, tout installer. Nous, on n'a pas de copie, hein, mais on a plein de petites choses à faire. On a en effet des gens qui nous aident, mais bon, je travaille dans un milieu particulier où on n'a pas beaucoup d'aide. On a la moitié du NATSEM, les collègues qui nous aident dans les classes. Ben, moi, j'ai l'habitude de le faire toute seule hein, maintenant. J'en ai tellement pas eu que maintenant, je le fais toute seule.
Il y a combien d'élèves dans les classes de petits comme ça ?
22, 23, 24, 25, y compris dans les quartiers populaires, où même l'inspection et nos chefs nous disent qu'il ne faut pas qu'il y en ait plus de 24. Bon, il y en a qui sont déjà à 28. Hein.
Donc ça peut être des semaines de travail à 50 heures semaine, au bout de 30 ans de boîte, pour le mirobolant salaire de...
Je veux bien en parler, mais moi je travaille en quartier populaire, et au lieu de nous augmenter notre salaire à tous, à nous, qui avons visiblement plus de boulot, ils nous payent à coup de prime. Moi j'ai 500 balles de prime. Voilà, à la fin du mois.
Ça s'ajoute à un salaire net
de 2002 et j'ai 2008.
Je rajouterai un truc sur cette histoire de charge de travail, c'est aussi dans la tête. C'est-à-dire que quitter une classe quand on vient de vivre une situation difficile avec des jeunes, quelle que soit la nature, que ce soit conflictuel ou d'être confronté à des difficultés d'un jeune, quel que soit l'ordre de ces difficultés, c'est aussi des choses qu'on a dans la tête, qu'on ramène à la maison, etc. On n'est pas le seul boulot où c'est le cas, mais c'est aussi une des particularités du milieu enseignant. Quand il y avait eu l'histoire des 35 heures, Il s'était dit, ouais, mais dans l'éducation, on va réellement regarder un peu, parce qu'il faudra peut-être leur mettre des heures en plus. Et très rapidement, quand ils ont fait faire des études, même par des cabinets qui ne sont pas forcément au service des organisations syndicales, ils se sont rendus compte que, bah non, il fallait surtout pas trop aller là-dedans, parce que, oui, bien sûr qu'en moyenne, on était déjà à 39, 40 heures et tout, donc ils ne pourraient pas nous dire, bah, ça justifierait d'augmenter votre nombre d'heures. Moi, je suis enseignant, c'est vrai que nous, un emploi du temps, c'est 18 heures de cours. Mais ils ont très vite conclu que ouais, une heure de cours, c'est au minimum une autre heure de boulot en dehors, et c'est au minimum. Et ce sont des choses, je pense, qui sont dégradées. C'est vrai ce que tu dis sur le fait qu'il y en a plein qui vont dire « ouais, nanti et tout », mais en fait, quand on discute avec les gens, moi je trouve que c'est quelque chose qui s'est un peu affaibli, et puis en fait, quand on arrive vraiment à discuter, à la fois on peut avoir quand même les vacances, les horaires et tout, et en même temps, le truc de « mais bon, on ferait pas votre boulot ». Moi, je suis en lycée professionnel, donc j'ai une petite anecdote avec des patrons qui régulièrement laissent un petit peu leur entreprise d'artisanat, par exemple, pour venir un peu enseigner en lycée pro, etc. Bah, très rapidement, ils ont des grosses déconvenues. Ce qui est souvent marrant, c'est la première journée où ils viennent. Ils pensent qu'ils ont prévu tout ce qu'il fallait pour tenir la journée. Et au bout de 2 heures, ils viennent nous voir. « Ah, mais non, mais tout ce que j'avais prévu, je l'ai fait. Mais en fait, il faut vachement préparer pour faire court une journée. » Bah ouais, c'est quelque chose qui demande... C'est un boulot, quoi, aussi. Et avec toutes les contraintes qu'on a dit et qui sont une réalité. Et la souffrance au travail. Là, je prends ma petite casquette syndicale. On a vu comment elle envahissait, d'ailleurs, l'activité syndicale. Toutes les dernières périodes, de plus en plus, il y a du temps qui est passé à accompagner des collègues qui sont dans la grande difficulté, qui sont dans la souffrance. Les taux d'enseignants qui démissionnent, surtout de jeunes enseignants, qui finalement se faisaient une idée ou pas du truc où ils sont allés parce que bah ils avaient fait la fac, puis voilà. Et donc qui démissionnent, bah, ils sont en progression énorme, surtout vu ce que sont les salaires de jeunes enseignants, parce que là on est deux collègues qui sont enseignants depuis pas mal de temps, mais pour les jeunes enseignants, surtout dans les très grandes villes, il n'y a pas de quoi vivre. Aujourd'hui, il y a une paupérisation des jeunes enseignants.
Un prof de lycée professionnel qui a presque 30 ans de boutique, ça gagne quoi à la fin du mois ?
La petite différence avec les instits, nous, c'est qu'il y a des choses qui sont intégrées, qui étaient sous des formes de primes. Bon, dernièrement, ils les ont fait repasser sous des trucs qui ne sont pas des primes, donc c'est un peu mieux, mais voilà. Avec les retraits des trucs des impôts maintenant, ça fait, voilà, c'est 2002, quelque chose comme ça, à la fin du mois. Ouais, 2002, 2003, à la fin du mois.
Le Pérou, quoi.
C'est aussi ce qu'on disait, c'est des discussions des fois quand on enseigne dans les milieux populaires. Bien sûr que pour beaucoup des parents, des jeunes qui sont dans nos établissements ou des enfants, c'est très au-delà de ce qu'ils touchent. Nous, en lycée, on peut en discuter des fois un peu plus avec les élèves. Ils ont quand même certains sens des réalités. Et ils font « Ah ouais, pour toutes les études que vous avez faites, c'est vrai que c'est pas non plus... » Voilà, donc il y a cette double conscience chez les jeunes que, bah ouais, c'est quelque chose qui n'est pas si légitime que ça.
Macron ! Macron ! La division des générations et des professions est une opération, une manipulation que nous refusons.
Isabelle et Sylvain ont des tas de choses à vous dire sur la casse volontaire de l'école menée par les gouvernements qui défilent depuis des décennies. Mais une fois de plus, le déclencheur du mouvement social en cet hiver 2019, c'est cet énième sabotage du système des retraites. Une casse entamée sous Chirac en 95 et qui à l'époque avait engendré une très forte contestation.
Grève, grève, grève ! Tous concernés ! Public, privé ! Grève, grève, grève ! Tous concernés !
Ça se passait hier matin du côté de Matignon, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud. Il s'agit d'une vaste réforme, un complexe qui se divise en chapitres et sous-chapitres.
Nous vous présentons donc aujourd'hui le troisième volet de transformation du marché du travail. La réforme repose sur quatre leviers, avec quatre volets complémentaires. La première étape, première priorité, le deuxième grand volet, notre deuxième étape, troisième point, troisième principe, la troisième priorité, la troisième étape, troisième grand volet, quatrième point de notre réforme, quatrième grand volet, trois volets, deux principes, quatre leviers, deux mesures. Et donc la réforme marche sur deux jambes. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon.
Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Individualiser la retraite, c'est arrêter la solidarité intergénérationnelle. Moi, je veux pas travailler jusqu'à plus soif et me constituer mon petit pactole, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est payer pour ceux qui ont arrêté de travailler et que quand j'arrêterai de travailler, les actifs y paieront pour moi. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux pas, moi, j'ai pas une petite cagnotte avec des petits bons points, ça me va pas, ça.
T'as fait un calcul de ce que tu toucherais ?
Non, j'ai rien calculé. Si, je perdrais beaucoup, hein, on perd beaucoup, hein, mais en fait, je sais pas comment réellement ma retraite va être calculée. Comme j'ai eu des primes, moi, toute ma carrière, ils te rajoutent une retraite additionnelle, des trucs, tu sais pas, en fait. Ils mentent, d'ailleurs. Il y en a qui, 2 ans avant le calcul de leur départ à la retraite, ils ont tant. Ils arrivent à la retraite, ils ont moins. Déjà, ma retraite, non, je ne l'ai pas calculée, je n'ai pas fait de simulation. Là. Ça me déprimerait, je pense.
Toi, Sylvain ?
Ouais, j'ai un peu regardé sur les simulations, mais avec le système, là, c'est des centaines d'euros qui seront perdus par les enseignants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un des éléments qui participent au déclenchement du mouvement dans lequel on est aujourd'hui, c'est évidemment cette question des retraites avec les calculateurs, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire que ça cristallise plein de choses. C'est pas nouveau. On peut se souvenir de 2003. 2003, ça avait été un mouvement assez fort dans l'éducation, avec de la grève reconductible. On avait buté sur le fait qu'on n'avait pas réussi à empêcher le sacro-saint bac de se tenir. Et le mouvement, c'était un peu effiloché.
Alors pour mémoire, c'était gouvernement Raffarin.
Ouais, c'était la question des retraites. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le mouvement qui avait été très fort dans l'éducation nationale, il était parce que depuis le mois de septembre, parce que tout ça, ça s'était passé au printemps, depuis le mois de septembre, il y a une vraie mobilisation dans l'éducation nationale qui était en fait à un moment où les libéraux ont fait passer une nouvelle façon de faire fonctionner les budgets de l'État. C'est-à-dire que c'était plus, on donne de l'argent à l'éducation et puis après, l'éducation la répartit sur les différents services et tout, mais il y a des missions. Et pour remplir ces missions, voilà. Donc c'était des changements financiers qui avaient des réelles répercussions dans nos vies quotidiennes. Et la forte mobilisation de l'époque, c'était la cristallisation des deux. C'était monté sur cette question de, en fait, d'un changement fondamental de fonctionnement de la fonction publique qui s'était additionné avec cette histoire de réforme des retraites qui était une attaque sur des trucs qu'on avait conquis de lutte de nos anciens, etc. Et je dirais que cette année, c'est la même chose. Bien sûr que là, c'est ça qui déclenche, et en même temps, ce qu'on a vu dans les manifestations, plein d'autres revendications qui sont portées par les enseignants, mais c'est vrai dans les autres secteurs aussi, hein, mais puisqu'on parle éducation là. Et pour moi, ce qui se passe là, c'est le prolongement et le fruit de ce qu'on vient de vivre l'année passée. L'année passée, 2 choses. On a vécu un mouvement qui change la façon dont on discute, dont on milite et dont on se mobilise. Ce mouvement, c'est celui des Gilets jaunes. Il a ouvert des imaginaires, il a ouvert des nouveaux possibles, il a mis quelque chose dans le politique pour moi.
Il me semble d'ailleurs, sur le printemps, dans les manifestations de Gilets jaunes, voir apparaître des profs, des instituts, qui avaient mis pour certains d'ailleurs un Gilet jaune ou pas, mais avec des trucs sur l'éducation nationale et la casse de l'outil, etc., marqués dans le dos.
Dès le mois de novembre, décembre, je ne suis pas le seul enseignant à participer à des mobilisations, même au quotidien, des Gilets jaunes.
Il y avait aussi des élèves.
Eh bien oui, c'est aussi le fait de ce mouvement qu'il y a eu l'année dernière contre la réforme du bac. La réforme du lycée, des lycées, parce que c'était lycée général et lycée professionnel, ce qu'ils appellent la transformation de la voie pro, qu'ils ont d'ailleurs mis sous le boisseau pendant un temps, parce que la mobilisation montait. Hein, puis après, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, avec, tu le disais, hein, un mouvement de lycéens assez fort, qui a été réprimé très fortement. Cette répression qui s'est abattue sur les lycéens, on l'a vu évidemment avec ce qui s'était passé en région parisienne, mais ça avait aussi existé dans pas mal d'endroits et à Tours. Et moi, un des trucs qui m'avait le plus scandalisé, c'est un peu une non-réaction à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être des enseignants. Alors, c'est pas pareil tous les enseignants, mais nous, dans les lycées, quand les lycéens, ils partent manifester, qu'on commence à voir comme ça de la répression policière, moi, mon sentiment, c'est que notre rôle d'éducateur, c'est d'être là avec eux. C'est d'être là avec eux, justement, parce qu'on peut, à minima, dénoncer ça et, en tout cas, montrer, par notre présence, faire quand même qu'en face, il y ait quelque chose qui se joue différemment. Parce que moi, j'ai assisté à quelques scènes rue Nationale. C'était quand même pas joli, joli. Hein. Alors, ça s'inscrivait au moment où on avait en plus plein de trucs, hein, le samedi, qui n'étaient pas joli, joli de la part des forces de l'ordre, mais c'était aussi sur les jeunes. Et voilà. Et donc, tout ça, ça a infusé. Et ces jeunes lycéens qui se mobilisaient, c'était souvent des lycées un peu défavorisés, technologiques et pro, des banlieues, des grandes agglomérations. C'est-à-dire, c'était ceux qui avaient leurs oncles, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, qui étaient sur les ronds-points. D'où une partie de la répression pour leur dire rester dans vos bahuts, dans des bahuts où en plus ils avaient bien compris, ces lycéens relégués, etc., que la mise en place de Parcoursup leur fermait, même pour ceux qui réussissaient bien dans des bonnes classes, dans ces lycées, parce qu'il y a des jeunes qui ont envie, qui ont une appétence, et puis qui arrivent à faire des choses, et Parcoursup, elle leur dit, bah ouais, mais les trucs des grandes écoles, c'est pas pour vous, puisque t'es de plus en plus lié à l'endroit d'où tu viens, géographiquement et socialement, avec cette histoire de Parcoursup, qui est un truc de tri pour aller vers les études supérieures. Pour moi, c'est l'accumulation de tout ça qui fait que le mouvement, il se cristallise aujourd'hui, mais bien sûr que le déclencheur, c'est cette histoire des retraites, quand même.
Par réforme Macron, on dit non, 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 non. T'es point la con, on dit non, 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 non. On a une solution, oui, 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 oui. Une juste répartition, oui, 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 oui.
La retraite à point.
On n'en veut point.
La retraite à point.
On n'en veut point.
Ça fait des décennies qu'il y a des manifs et des grèves de profs. Mais au-delà de leur retraite, des profs en grève défendent aussi l'école, les élèves, les gens. Profs en lutte contre les soi-disant réformes, contre les suppressions de classes, contre le rabotage des moyens. Alors Isabelle, toi, est-ce que tu as les moyens de mener à bien ta mission de service public ?
Non, il manquerait des personnes qui nous aident à regarder les enfants autrement, qui nous aident à les aider, en fait. Ça, il nous manque. Quand j'ai débuté, j'avais ma classe et il y avait des collègues qui étaient là dans l'école en permanence, des maîtresses, des psychologues scolaires, là. Je ne sais pas de combien de centaines d'enfants doivent s'occuper. Enfin, c'est terrible. Ça, ça nous manque. Puis, par exemple, là, on est sur une expérimentation dans mon école de grande section à 14. C'est génial. Ça te fait des petits et des moyennes sections à 24. Des petits gamins qui ne savent pas forcément parler. C'est des petits, il faut aller les tirer. C'est un boulot, c'est un sport de combat aussi. C'est comme la sociologie, hein. Et puis, quand on tire les sonnettes d'alarme sur des gamins en très, très grande difficulté, et sociales, et autres, éducatives, et tout ça, on n'a rien en face, ou pas grand-chose. On est dans le système de démerde-toi tout seul. Alors là, encore, dans une équipe, on arrive à se démerder en équipe. Mais c'est vraiment le système de démerde-toi tout seul, voilà.
Sylvain, est-ce que tu estimes avoir les moyens de faire correctement ton boulot ?
Non, ça s'est fortement dégradé. Toutes ces personnes dont on aurait besoin aujourd'hui, en plus de ce qu'on fait en cours pour s'occuper de ces jeunes qui ont des difficultés particulières, ou voilà. Et on revient à un truc qu'on a dit au départ, hein, qui fait que on ramène plein de trucs dans la tête aussi le soir, c'est qu'il y a plein de jeunes, on voit bien les difficultés et des trucs qui pourraient se mettre en place, mais ces moyens n'existent pas. Ces moyens n'existent pas, et c'est vrai que c'est beaucoup des professionnels de la santé, du soin, de l'accompagnement qui seraient nécessaires dans le milieu scolaire, parce que voilà, on n'invente pas l'eau chaude, mais on sait les moments qui sont décisifs, et les moments qui sont décisifs, il y en a en primaire, il y en a au collège, et à partir du moment où on ne met pas des moyens conséquents là-dessus, par exemple aujourd'hui on a décrédibilisé l'idée du collège unique, du collège pour tous, c'est vrai que c'est devenu une cocotte minute, les soupapes ça pète de partout, mais c'est avant tout parce que justement on ne lui donne pas les moyens de cette ambition-là, parce que sinon si la réponse c'est que selon d'où on vient socialement, on doit aller dans un établissement différent, ça accentuera cette reproduction sociale qui est déjà fortement présente. Mais c'est sûr qu'avoir l'ambition d'élever les choses et tout, ça demande de mettre ça en place. Et c'est les premières choses qu'on a supprimées avec les suppressions de postes dans la fonction publique. Puis après, objectivement, il y a des moyens matériels, on fait avec des bouts de ficelle. Et là aussi, il y a tout le discours sur aujourd'hui avec l'utilisation des nouvelles technologies, etc. Mais mettre ça dans des établissements, ça demande là aussi du personnel. Je reprends le cas des lycées parce que je maîtrise un peu plus. Avoir démultiplié les salles d'ordinateurs, oui, mais ça veut dire qu'il faut du monde pour s'occuper de ça. Et du monde pour s'occuper de ça, c'est du monde qualifié. Faire fonctionner des réseaux dans un bahut comme le mien où il y a des formations spécifiques, ça demande quelqu'un à plein temps. Et au départ, tout ça, ça s'est mis en place sur... On donnait quelques heures au gentil prof qui bidouillait chez lui de l'informatique et donc on lui a dit, c'est toi qui vas faire ça. Et ça a explosé. aujourd'hui, les moyens, ils sont dérisoires pour faire fonctionner ça. Alors, ça nous ramène au réel hein, aussi, c'est-à-dire qu'on nous vend le truc de tu vas préparer ton cours avec des choses que tu vas projeter, etc. et tout. Ouais, t'as intérêt à avoir été là une heure et demie avant dans ta salle pour avoir le temps de vérifier que tout ça, ça fonctionnait bien, d'avoir changé les ampoules. Enfin voilà, c'est des trucs, ça ne marche pas. Et puis, ça ne marche pas non plus dans la durée. Ça demande des fonds qui sont énormes. Et on voit bien que les collectivités qui ont ça en charge, même s'il y a de l'affichage sur que c'est important et tout, les moyens ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait pour qu'on puisse fonctionner. Mais le truc essentiel, c'est quand même toutes ces personnes dont on aurait besoin aujourd'hui pour recréer un cadre qui permet ce que l'école est encore hein, quand même pour beaucoup, c'est-à-dire que ça reste un cadre qui reste protecteur pour une partie de la jeunesse quand même. Quand même, malgré tout. Il y a quand même de l'engagement au quotidien d'une grande partie des enseignants. C'est toujours pareil, on ne peut pas simplifier. Le milieu enseignant, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi, heureusement, plein de gens qui continuent à se donner pour ce qu'ils font.
C'est certain, si l'école tient encore debout, c'est pas par miracle, ni grâce au salaire dérisoire qu'on balance aux profs. Si l'école fonctionne encore, plus ou moins, c'est grâce à l'engagement dans leur boulot de bien des petits soldats de l'éducation nationale. L'école tient encore debout grâce à des profs qui mettent énormément d'eux-mêmes, de leur temps, de leur énergie dans leur mission de service public d'une école pour tous. Enfin, du moins, ça, c'est ce qui est annoncé sur le papier.
Toutes les dernières réformes et les attaques du gouvernement, elles tirent sur la corde là-dessus. On a de plus en plus de collègues qui sont mal, il y a de plus en plus de collectifs qui sont mal. Et souvent, on voit d'ailleurs, il y a des cycles, c'est-à-dire il y a des établissements où pendant un moment, voilà, il y a une équipe qui va réussir. Mais après, à faire tenir ça dans la durée, c'est compliqué parce que ça demande une énergie, des choses comme ça. C'est souvent d'une très grande fragilité, ça tient à quelques alchimies et tout. Et quand globalement, tout le monde va de un peu plus mal, voilà, c'est toujours à la limite de l'explosion, ce genre de truc.
Nous, dans les écoles maternelles, par exemple, moi, je dis toujours, on a besoin d'un CPE. Le CPE, c'est au collège.
Il y a la directrice de l'école qui fait tout.
Des fois, elle fait tout, mais des fois, elle est dans sa classe, parce qu'une directrice d'école, elle est enseignante avant tout. Quand on a un gamin qui dysfonctionne et qui peut mettre à mal une école, c'est démerde-toi tout seul. On se démerde entre nous, on se fait des réunions, on parle de deux cas d'enfants. Comment on fait pour lui, là ? Qui va pas bien, comment on fait, comment on va lui faire vivre une bonne journée quand même à lui, qui des fois ne va pas bien, qui des fois c'est un petit qui a envie de mordre, qui a envie de se rouler par terre. Nous on en a plein à l'école, des gamins en colère. Moi je suis à l'école maternelle, c'est normal, mais il faut les gérer. Hein. T'as des enfants qui savent pas du tout ce que c'est la collectivité. Ils arrivent à... Nous on les a tout neufs, hein. Tout beau, tout neuf. Voilà, il nous manque des moyens, avoir des CPE dans les écoles, des assistantes sociales, des psychologues, même pour nous aider nous, hein, des psychologues pour nous aider nous, hein, parce que des fois il se passe des choses qui nous affectent. Hein. Quand t'as des gamins qui te parlent d'une chose, il te dit quelque chose et là t'es obligé de te remplir ta fiche toute seule hein, d'enfant en danger.
À Tours, en région centre, on a la chance d'avoir une vieille école de samba qui s'appelle Sarava et dont certains musiciens descendent dans la rue à chaque mouvement social avec leurs instruments. Et ça fait maintenant des décennies qu'on manifeste en rythmes tropicaux.
Pas faire nos ministres pour nos retraites, pour notre salaire, on va pas se laisser faire. On se laissera pas les égoïstes nous obliger à nous taire.
Au-delà de leur retraite, ça fait des années que des profs luttent contre le sabotage de l'école publique. Une casse menée depuis des décennies par les politiques qui défilent au pouvoir, qui se prétendent socialistes ou pas. Il faut bien le comprendre, ce sabotage de l'école est délibéré. Le but, c'est comme pour tout le reste. Comme pour le train, l'hôpital ou la retraite, privatiser, marchandiser l'éducation pour faire du fric au bénéfice de quelques-uns et au détriment de tout le monde.
Marchandisation de l'école, là je reviens aussi sur 2003. 2003, c'était un rapport de l'OCDE qui expliquait que quel que soit le niveau du pays, c'est-à-dire des pays les plus développés aux pays les moins développés, il y avait un truc sur lequel une grande partie de la population était prête à mettre de l'argent, c'est la réussite de leurs gamins, payer des formations, des trucs comme ça. Pour les libéraux, ça veut dire quoi? Ça veut dire des milliards, des milliards. Des milliards à capter pour les marchés financiers. Et donc, depuis 2003, je pense qu'au cœur de toutes les réformes de l'éducation, il y a cette idée de la marchandisation de l'école qui est présente.
Ce qui nous ramène d'ailleurs au thème qui nous rassemble autour de ce micro, c'est marchandisation des retraites aussi.
Ça fait...
Marchandisation de tout, en fait.
Oui, hein, de nos corps, de nos pratiques sociales, de tout ça. Ouais. Justement, les dernières réformes, moi, plus sur les lycées et tout, avec Parcoursup et ce genre de choses, là, en fait... Pour revenir à l'essentiel, c'est qu'en gros, on est parti d'un truc où on formait des jeunes à aller vers des diplômes et puis après à pouvoir poursuivre des études. Là, on individualise. Donc on voit comment c'est des trucs des libéraux en lui disant c'est toi qui fais tes choix, puis à partir de tes choix, tu auras des possibilités ou pas. Ou pas, il faudra que tu complètes ta formation. À un moment où en plus on réduit les moyens qui vont être donnés dans les... Il y a moins d'heures de cours, il y a des choses qui disparaissent. Et donc on va voir fleurir des boîtes privées qui vont proposer d'accompagner ce truc-là, qui permettront, une fois qu'on a eu son bac, mais qui nous manque un certain nombre de trucs pour aller vers les études qu'on a envie, on pourra aller le faire dans des boîtes privées. De plus en plus, nous, même en lycée professionnel, on a des fois des élèves qui sont suivis par des coachs scolaires. Des coachs scolaires, parce qu'en plus les parents ils intègrent vachement ce truc où on voit toutes ces sollicitations, comme on a ces sollicitations en ce moment, toutes les boîtes qui nous appellent pour dire mettez un petit peu d'argent pour préparer la suite de votre retraite et tout. C'est la même chose, c'est la même chose, et c'est vrai que c'est aussi sur le scolaire. Et ça, je trouve que ça s'est fait pas dans un grand silence, parce qu'on est quelques-uns à en parler, mais à des moments où il y a des échéances où on devrait parler de. Qu'est-ce que doit être l'école, par exemple, à des élections présidentielles ou des choses comme ça? C'est rarement un sujet central. C'est rarement un sujet central, alors que c'est là que se jouent plein de choses. Et pour l'instant, c'est vrai que les libéraux, ils avancent. La France, c'était un des pays où il y avait des résistances encore par rapport à ça. Là, on essaye de les faire vivre, pour l'instant, ces résistances. Mais il y a un vrai enjeu. Ça ne veut pas dire, moi, j'ai jamais cru à ça, qu'après, s'ils l'emportaient là, après, il n'y aurait plus rien de possible. Parce que l'histoire, elle n'est jamais finie. Moi, je ne crois pas à la fin de l'histoire. Donc, je pense non que, il y a toujours la lutte des classes. Alors, comme disait Warren Buffett, pour l'instant, c'est sa classe qui est en train de gagner.
Warren Buffett, célèbre milliardaire américain.
Voilà, qui était passé dans sa toute jeunesse par, entre guillemets, on va dire, des bonnes écoles de formation qui lui avaient appris ce qu'était réellement la société. Après, il a choisi son camp, c'est celui qui est en face d'une autre. Mais lui, il est conscient qu'il y a la lutte des classes. Voilà, l'histoire ne sera pas finie. Mais c'est sûr que là, il y a un truc important qui se joue pour l'instant. Et c'est pas étonnant que ça se joue en France.
Comme l'a signalé Sylvain tout à l'heure, contrairement au cliché post-mai 68, l'éducation nationale n'est pas une planque de gauchistes. Figurez-vous qu'il y a des tas de profs de droite, et on ne parle pas ici de ceux qui votent pour ce parti de droite molle qu'est le Parti Socialiste. Eh ben non, les profs ne sont pas tous de gauche, pas tous lucides ni conscients de notre histoire sociale, particulièrement pas les jeunes générations d'enseignants. Et c'est pas sans rapport avec la casse de l'enseignement de l'histoire à l'école et dans les médias.
Non, le prof, il y en a qui ont conscience d'appartenir à une certaine classe sociale et d'autres pas. On voit des jeunes qui arrivent dans nos écoles qui n'ont pas de culture politique. Enfin là, il y a une petite collègue qui ne savait pas comment se passer la retraite. Elle s'est quand même mise en grève parce que je lui ai dit, en fait, là, ce qu'on te demande, c'est est-ce que sur ton petit salaire, tu prendrais 30 euros pour mettre sur une assurance retraite et te la constituer toute seule. Elle a fini par me dire, ouais, tu m'as convaincue, mais elle a fait 15 jours. Elle ne voit pas trop ce qu'il faudrait faire, quoi. C'est un peu compliqué dans leur tête. Ils n'ont pas de culture politique, pas de culture syndicale, pas de culture de lutte. De lutte parce qu'il faut travailler, c'est normal en fait. Tout est normal. Le rêve, c'est d'avoir une maison, peut-être une terrasse. Pas mal d'avoir une terrasse, enfin voilà.
Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu as du mal à comprendre où tu es et où tu vas. Sylvain, est-ce que ça t'arrive de traverser des moments de solitude en salle des profs?
Ouais, alors des moments de solitude, après c'est un enjeu dans les bahuts à faire vivre des collectifs enseignants. Mais c'est vrai qu'il y a une modification de milieu enseignant. Par contre, il ne faut pas mythifier ce qu'il était avant non plus.
Les hussards noirs de la République, aux côtés des élèves en difficulté, qui préparaient les petits-enfants à aller faire la revanche contre l'Allemagne.
Tu remontes vraiment très très loin, et t'as raison. Mais même le mythe des enseignants des années 60, 70, 80, il y a un côté mythe aussi qui est là-dedans, même si je pense qu'il y avait une conscience un peu plus partagée. Ah, il y avait surtout une adhésion à un milieu syndical ou à des engagements pédagogiques, etc. Mais qui avait aussi... leur faculté d'accompagnement du système, je dirais. Où il y avait quand même le fait qu'on soit, alors moi en plus, professeur dans un lycée. C'est quand même un statut social. Et évidemment que la République, elle a joué aussi avec ce truc-là. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que avec ce qui est devenu l'enseignant et le fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur les histoires de salaire, beaucoup, ça les ramène à ce qu'ils sont. Des travailleurs qui ont des fins de mois qui sont difficiles. Et donc ça, évidemment, que ça complexifie sur certaines choses, mais ça ramène à une réalité. Et puis l'autre changement que moi j'ai noté, qui s'est cristallisé au moment de 2002, quand on a vu le vote des enseignants en salle des profs, et sur les élections, en gros, qui a décroché du Parti Socialiste, pour faire simple, très largement. Ça, moi, je pense que ça a libéré des imaginaires et des possibles, mais c'est aussi le fruit d'un autre truc, c'est que l'école n'était plus une rempart, une forteresse. Il y a tout un tas de questions de société qui étaient avancées, et moi j'ai vu progresser fortement dans la tête de beaucoup de collègues un changement qui pour moi est vraiment un problème. C'est le fait de très majoritairement passer de l'idée que en face de nous, on a des jeunes en danger, à des collègues qui passent sur l'idée que des fois en face d'eux, ils ont des jeunes dangereux. Et ça change tout. Ça change tout sur... ce qu'on fait pour l'éducation, ça change tout sur ce qu'on vote, ça change tout sur le rapport qu'on crée au quotidien avec les jeunes, etc. Et ça, c'est quelque chose, à un moment où je pense en plus, il y a eu une désertion de notre milieu militant, engagé, de tout un tas de questions qui lient nos pratiques professionnelles à nos engagements de défense, des statuts des collègues, de tout ça. Il y a eu des ruptures là-dessus et en fait, il faut tenir les deux bouts. Il faut aussi tenir le fait que, ouais, comme on est conscient qu'il y a cette double nature de l'école, qu'elle n'est pas qu'émancipatrice, hein, elle est aussi là pour les faire rentrer. Moi, je suis en lycée professionnel. Hein. Grosso modo, le lycée professionnel, c'est quand même pour former des jeunes, pour leur dire, tu vas aller sur le marché du travail, accepter les conditions qu'il y a.
Former les jeunes pour la boîte qui est à côté du bahut.
Oui, et puis les réformes ont beaucoup été dans ce sens-là. Donc, c'est là où il faut avoir ce pas de recul. Et ce pas de recul, je pense qu'individuellement, il y a un certain nombre qui l'ont. Mais ce sur quoi on a lâché, mais comme partout, c'est de faire vivre des collectifs qui font vivre ça. Et ça, c'est un des vrais enjeux. Et moi, je pense, pour revenir au mouvement d'aujourd'hui, qui n'est pas idéal ni quoi que ce soit, mais en tout cas, s'il arrive à avoir une certaine vivacité, c'est que pour moi, il est le fruit du fait que ces dernières années, en particulier l'année dernière, mais aussi dans d'autres luttes, on a revu naître des collectifs. Par contre, des fois, qui ne sont pas toujours des collectifs majoritaires dans notre milieu, mais qui sont des collectifs suffisamment nombreux pour qu'on se dise « Ouais, on peut essayer de faire quelque chose. » Donc là, on essaye de faire quelque chose, qui est de rentrer dans ce mouvement et puis de lui donner un peu de force. Après, ça ne reposera pas essentiellement sur le milieu enseignant, mais il n'y a pas que les enseignants qui sont mobilisés aujourd'hui. Donc voilà, puis on fait le pari de demain, hein, que ça va mieux marcher, qu'on va y arriver, qu'on va créer des additions avec d'autres colères, avec d'autres mobilisations. Et j'utilise ce terme d'addition parce que ça fait partie encore de mes repères, mais c'est aussi le fruit de toute l'année passée. C'est plus qu'une histoire de faire converger des luttes. Pour moi, ce qui est dynamique aujourd'hui, c'est qu'on additionne des colères, on additionne des luttes, et puis avec cette addition, on verra l'équation qu'on arrivera à former, mais en tout cas, plus, on est plus nombreux et on est un peu plus fort dans le rapport de force.
Ouais.
Alors on a tous plus ou moins un rapport amour-haine avec l'école. D'une part, l'école qui te cultive, qui t'apprend à penser, qui t'arme pour la vie. Et d'autre part, l'école qui te cadre et te formate à coups de propagande. Alors en gros, pour schématiser, jadis, la propagande sauce Jules Ferry chantait les louanges de la République bourgeoise, enseignait la haine du Bosch en vue d'une revanche sur l'Allemagne, et enseignait aussi la supériorité des Blancs sur les indigènes de nos colonies de l'époque. Aujourd'hui, la propagande scolaire enseigne toujours la soumission à l'ordre établi et au fric, et à cette Europe dirigée par des banquiers que personne n'a élus. C'est fort bien enseigné dans des écoles de riches et un peu moins bien dans des écoles de pauvres. En habitant en centre-ville et en payant des écoles privées, la bourgeoisie a les moyens de donner une vraie éducation à ses enfants qui eux-mêmes deviendront cadres de la société. Mais pour tous les autres, une école prodiguant un enseignement de base suffit bien pour fabriquer des exécutants. Pas formé pour trop réfléchir, mais pour exécuter. Processus observé avec le Mac à Mac, théorisé par l'essayiste Nico Hirt.
Et des bons exécutants. Alors c'est Nico Hirt. Il décrivait la société américaine où il y avait des gens qui savaient lire, écrire, compter. Voilà, cliquer aussi, parler anglais ou une langue étrangère. Mais eux, ils pourraient bien travailler à McDo. Mac. Le système produit ça, des bons exécutants qui savent faire ça. Et il y en a d'autres qui doivent aller travailler à l'autre Mac, Macintosh, courront un parcours d'ingénieur, courront un parcours long d'études. C'est en train de se dessiner comme ça. Des gens, des simples exécutants, qui ont un boulot super formidable, qui est aider les personnes âgées à rester chez elles et tout ça. Alors ça, c'est des catégories sociales de bas niveau, parce qu'ils se déplacent, ils ont leur voiture personnelle, ils sont payés 3 francs 6 sous pour aller chez telle personne, chez Madame Trucmuche, chez Monsieur Bidule. Et donc ça, c'est des simples exécutants, ils savent lire une ordonnance, ils savent aider la personne à prendre ses médicaments ou à s'allonger, voilà. Ça, c'est des Mac, McDo. Et puis les autres qui dirigent, qui savent réfléchir et qui savent organiser le travail des autres, des Macintosh, voilà. Alors j'ai vu Monsieur Hirt, c'est un prof qui a fait beaucoup d'études et qui expliquait quand même que le gars qui doit faire le train Tour Paris ou Paris Tour avec ses sandwichs à vendre et tout ça, il faut qu'il sache lire, il faut qu'il sache faire marcher son ordinateur, même si c'est des petits dessins maintenant, il faut savoir compter, il doit savoir parler anglais, il doit maîtriser une langue et sa langue aussi. C'est une base qu'on acquiert en fin de troisième. Avec le brevet des collèges, on a des bons exécutants.
Sylvain, l'école qui arme pour la vie ou l'école qui formate, et les deux en même temps?
Les deux en même temps, parce qu'après, il reste quand même, heureusement, des espaces de liberté pédagogique pour les enseignants, même s'il y a quand même globalement l'évolution des programmes, etc. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le problème c'est qu'on a peut-être aussi collectivement trop lâché sur nos pratiques pédagogiques, les réfléchir aussi collectivement, donner du sens un peu aussi à ce qu'on fait et comment on le fait. Ces collectifs de réflexion, même si des fois ça peut passer par des collectifs où ça frite, quoi. C'est aussi ça la vie. Mais pour prolonger ce que disait Isabelle, comme je suis en lycée professionnel, on est en prise vraiment avec ce truc. Et là, la transformation de la voie pro qu'ils ont mis en place l'année dernière, c'est la cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est l'aboutissement de ce que les néolibéraux veulent depuis un certain temps. C'est-à-dire, bien sûr qu'ils ont besoin quand même d'exécutants qui maîtrisent un certain nombre de choses. Mais ce qu'ils ont surtout besoin aussi, c'est qu'en plus, ils acceptent de le faire pour des salaires qui ne soient pas trop élevés. Et là, la transformation de la voie pro, la mise en place de Parcoursup, les réformes qu'on a eues sur la loi travail et tout, à un moment donné, tout ça, ça s'enchaîne et ça va produire quoi? Ça va produire que là, dans les années qui viennent, avec toutes ces réformes, on va avoir des jeunes qui passent par la voie pro ou l'apprentissage, qui vont valider ce qu'on va appeler des blocs de compétences. Et puis, on va déculpabiliser l'idée chez les profs du fait que, c'est pas grave s'ils valident pas l'ensemble qui s'appelle un diplôme. Et après, ils iront sur le marché du travail juste avec leur bloc de compétences. Et ça va arriver très vite, parce que dans la transformation de la voie pro, et là, c'est La rupture d'un contrat tacite qui avait été passé avec une partie des classes sociales populaires et les plus défavorisées. C'était quoi ? C'était le fait que de plus en plus, on les emmenait vers des bacs pro, ce qui permettait quand même d'accéder à des poursuites d'études et tout. C'était pas idéal, hein, loin de ça. Mais là, ça va se terminer parce qu'à la fin de la première, il faudra qu'ils choisissent soit d'avoir, dans le cadre du fait qu'on leur enlève plein d'heures d'enseignement général et un peu d'heures d'enseignement professionnel. Bon, passons rapidement, mais il faudra qu'ils choisissent entre un module poursuite d'études ou un module vie active, je ne sais plus comment ça s'appellera. Et moi, je vois bien l'étape d'après. C'est qu'on va dire aux collègues, ceux qui n'ont pas appris le module poursuite d'études, c'est pas grave qu'ils n'aient pas le diplôme. C'est plus l'ambition qu'on doit avoir. De toute manière, ils auront une heure de français, une heure d'histoire et puis une heure et demie de maths, je crois, en terminale. Ce qui compte, c'est qu'ils aient leur bloc de compétences. Et puis après, ils iront sur le marché du travail avec leur petit bloc de compétences. Voilà. Donc là, on formate, on prépare à ça, à un moment où, comme on a fait baisser tous les salaires et tout, ouais, le système, pour continuer, il a quand même besoin des classes moyennes supérieures ou supérieures. Elles ont besoin de gens qui leur amènent leur petit sandwich. Il faut déjà qu'il y en ait qui le fabriquent, il faut qu'il y en ait qui l'amènent, etc. Et tout. C'est-à-dire que la vie un peu privilégiée d'un petit nombre, sans compter hein, les gros exploiteurs au-dessus, et à mon avis, la question elle est plus là, mais pour que ce système-là il fonctionne, il va falloir tout un tas d'exécutants, il va falloir qu'il y en ait tout un tas qui acceptent de bosser pour pas cher. C'est-à-dire que ce petit faux confort de certains, il a un coût social. Moi, je crois que, justement, pour revenir à un truc que je disais tout à l'heure, là, aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes et tout ce qui s'est passé autour, il fait qu'il y en a plein qui pourront dire « Ah ouais, on savait pas ». Non, parce que là, si on sait pas, c'est vraiment qu'on veut pas regarder ce qui se passe. Mais l'école, elle s'inscrit là-dedans.
Vous entendez ? Il y a encore des profs qui, en plus de leur boulot, ont le courage de prendre le temps de réfléchir sur des ouvrages de sociologues comme Bernard Lahire, dont le dernier bouquin t'a beaucoup plu, Isabelle.
Il fait une description un petit peu de catégories socio-professionnelles. Alors, il prend toutes les catégories socio-professionnelles. Il prend des parcours d'élèves et des parcours familiaux. Et il interviewe autant les familles que les enfants sur ce que c'est que l'école va leur apporter. Qu'est-ce que l'école va leur faire ? Et en fait, dans les catégories socio-professionnelles inférieures, c'est bien d'avoir un CAP. C'est déjà mieux que ce que j'ai. Le manque d'ambition, il est déjà dans la famille. Le manque d'ambition est scolaire et d'apprentissage et de savoir des choses nouvelles et de lire pour comprendre d'autres choses et de lire pour apprendre et tout ça... Dans plein de milieux, ça n'existe pas. Et les parents ne le portent pas. Par exemple, il y a une catégorie qui décrit des gens complètement analphabètes en français, mais extrêmement lettrés dans leur langue, qui portent leurs enfants en disant « Nous avons migré pour vous, il faut réussir à l'école. » Et ça donne des réussites complètement étonnantes de fratries, d'immenses fratries. Il y a les 7 gamins qui réussissent à aller jusqu'au master intégré de l'université sans que les parents ne parlent et ne lisent le français. Ils sont portés par un sentiment intérieur de sécurité en disant « Allez-y, bouffez le monde, bouffez la vie, bouffez l'école, on vous offre ça, c'est formidable. » Et dans d'autres catégories socio-professionnelles, l'école, c'est un souvenir pas bon. C'est un souvenir pas bon, on a raté, vas-y. Tu vas voir, tu vas rater comme nous. Puis si tu décroches un CAP, c'est quand même vachement bien. Voilà. Il y a un imaginaire et un roman familial autour de l'école. Et en plus de l'école, tout le monde a droit d'en parler. Tout le monde est passé sur l'école. Tout le monde a un avis. Il y a des gens qui nous disent effectivement, oh, on ne veut pas faire ton métier. Là, il y a un papa qui m'a dit, dites, vous êtes 3 jours en grève là, mais c'est en plus des 16 semaines de vacances. Non, monsieur, en fait, là, je suis 3 jours en grève, mais prenez la classe là. Faut pas juste les surveiller ni les animer, faut leur apprendre des choses. Et après, faut les tirer, hein, ceux qui n'ont pas envie, ceux qui ont leur maman qui part au boulot quand ils rentrent de l'école. Ils n'ont pas forcément envie d'apprendre. Ils n'ont pas un modèle et une ambition pour eux-mêmes.
L'école sabotée qui tombe en lambeaux, les politiques n'en parlent jamais. Et pour cause, qui se prétendent socialos ou pas, ce sont bien ces politiques successives qui sabotent l'école à coups de réformes scélérates et autres injonctions contradictoires. Après les massacres Charlie Bataclan, on a soudain ordonné aux profs d'enseigner la République et la citoyenneté, tout en leur demandant de signaler les élèves qui ne sont pas Charlie. Et puis le sinistre de l'éducation a décrété que la bienveillance était le concept à la mode de la rentrée 2019. Alors faut-il que les profs dénoncent leurs élèves, mais avec bienveillance? L'école qui s'en prend plein la gueule en première ligne de la société, les médias non plus n'en parlent jamais. Sauf quand il y a une bonne vieille histoire de foulard islamique à se mettre sous la dent. Hein, ça c'est bien. Hein. Quand le voile sert à voiler l'incurie volontaire des gouvernants. Alors ce énième retour du foulard islamique et ce énième débat sur la laïcité, t'en penses quoi Isabelle ?
C'est apparu au moment où il y a une collègue directrice qui s'est suicidée dans l'école, c'était à Pantin, et qui a dénoncé la hiérarchie, qui a dénoncé le manque de moyens, qui a dénoncé les doubles injonctions, qui a dénoncé le manque de moyens pour la petite enfance et pour la prévention, le manque de moyens dans les écoles, le manque de moyens pour les municipalités pour aider les écoles. Enfin, tous ces manques de moyens, elle l'a dénoncé et paf, le voile. Voilà, c'est pour éviter de traiter une question sociale dans l'éducation. C'est sûr, c'est sûr. Une question de service public aussi. Hein, c'est...
T'en fais des sorties scolaires, toi?
Ouais.
Et si une maman voilée vient, tu fais quoi?
Je fais comment si elle vient pas? C'est surtout ça. C'est si elle vient pas, on fait comment? On sort pas. On sort pas.
Des mamans accompagnatrices hors de l'école qui peuvent avoir un foulard.
Le voile autorisé en sortie scolaire pour les mères de famille, la décision du Conseil d'État est tombée tout à l'heure, elle était très attendue, le gouvernement se dit contre.
Je pense que nous devons collectivement être intelligents. Si elles sont en responsabilité pour l'école, elles n'ont pas apporté le foulard parce qu'elles sont sous la laïcité de l'État. Et si elles sont en fonctionnaire ou en quasi-fonctionnaire ou en collaborateur occasionnel du service public, elles ne peuvent pas porter le foulard. C'est la laïcité, ça qui l'impose. Quand vous servez le service public, vous n'avez pas le foulard.
Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et ce énième coup de voile n'a pas eu les effets d'enfumage escomptés, Sylvain.
Au final, moi je trouve qu'il y a quand même eu de la réaction en face. Bah, ce truc, alors, il a un écho dans une partie de la société, mais dans les réactions, justement, pour dire, ouais, c'est bon, ça va, quoi, arrêtez de nous ramener ça. Je trouve qu'il y en a eu pas mal aussi, donc voilà, je suis plus mesuré sur ce truc-là. Ce sera réutilisé, ça n'empêche pas qu'il se passe plein d'autres choses. La réalité, c'est que bien oui, dans plein de quartiers, les sorties, elles se font avec des mamans qu'on dévoile, et puis si on discute pas, voilà, moi c'est un truc, de toute manière, je le vois même en lycée, si dès qu'il y a une jeune qui arrive comme ça, le truc c'est l'exclusion, bah, ça ne peut renforcer que la ghettoisation. Donc bien évidemment que non, c'est des discussions qu'il faut avoir et de voir comment on peut avoir des cadres qui sont toujours intégrants et finalement quand on crée ça, parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui s'y passent. Après, il ne faut pas nier que bien sûr qu'il y a des trucs durs qui se passent dans des bahuts, que tout ce truc médiatico, voilà, il arrive aussi dans nos écoles quand on discute avec les jeunes sur les avis qu'ils ont, où est-ce qu'ils vont s'informer, les trucs un peu complotistes, tout ça, bien sûr que c'est présent. Et en même temps, ce qui est aussi présent, c'est que les jeunes, ils ne sont pas si dupes que ça.
Même les enfants ont un cerveau, il paraît.
Ouais,
hein,
ouais. Non, mais c'est oui. Évidemment, il y a ces aspects-là, mais sur des trucs qui pour moi sont aussi essentiels, je pense que les générations qui sont scolarisées aujourd'hui, elles ont lourd sur les épaules. Bon, on est quelques-uns à avoir côtoyé des milieux scolaires où on peut un peu discuter, réfléchir dans les années, allez, 80, des choses comme ça. Il y en avait quand même pas mal autour de nous qui croyaient au discours de « on va être les Bernard Tapie, les rois de la société », qui était le truc qui nous était inculqué aussi. Donc, je ne suis pas complètement pessimiste. Je crois que, objectivement, la jeunesse, et en particulier celle qui est issue des milieux populaires, des milieux les plus défavorisés, c'est objectivement celle qui a le plus d'intérêt à ce que les choses changent aujourd'hui. Donc voilà, l'école, elle continue à mettre des petites graines qui seront, on verra comment elles éclosent, etc. Mais les mobilisations qu'on voit ces derniers temps, elles sont aussi le fruit de jeunes salariés. qui sont aussi passés par ces systèmes scolaires-là. Parce que globalement, dans le salariat, il y a aussi quelque chose qui est le fruit de l'école. Il y a quand même globalement une élévation du fait de maîtriser un certain nombre de trucs, de même si tu es dans des boulots à la con, d'être passé par les lycées et tout, ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans. Donc il y a aussi des jeunes qui sont moins dupes. Après, le problème, c'est comment on recrée l'espoir, comment on recrée le truc de... Ouais, on peut gagner des choses, on peut reprendre nos vies en main. Ça reste un des grands chantiers. Mais je ne pense pas qu'il ait aujourd'hui des conditions plus compliquées à pouvoir jaillir qu'avant. Et puis de toute manière, on n'a pas le choix parce qu'avant, il n'a pas jailli. À part faire le pari que ça puisse jaillir et que ce n'est pas les gens qui ont plus de 50 ans qui vont porter l'idée qu'on va changer la société. Ils peuvent appuyer, ils peuvent jouer là-dedans, mais ce n'est pas eux qui, objectivement, vont la changer. Il va falloir qu'à un moment donné, ceux qui ont le plus intérêt, les milieux les plus défavorisés, les milieux populaires, et parmi eux, la jeunesse, prennent ses affaires en main. Donc, moi, je crois que les conditions, elles sont encore possibles de ça. En tout cas, moi, c'est le pari que je fais.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon.
Merci beaucoup, Madame la Ministre.
On en revient au mouvement social de cette fin d'année 2019 et à la grève. Seule arme et seul signal d'alarme dont disposent les gens qui travaillent. Et d'ailleurs, pour en finir avec une légende urbaine, signalons au passage que pour les profs, comme pour tous les autres, la grève, c'est pas gratuit. Un jour de grève égale un jour de salaire en moins sur la fiche de paye. Or, quand des profs font grève, ça fait économiser de la masse salariale au gouvernement, ça ne bloque pas grand-chose, et ça pénalise surtout les élèves et leurs parents, a fortiori dans les zones d'éducation prioritaire. Alors les amis, je suppose que c'est pas de gaieté de cœur que vous abandonnez vos élèves et une partie de votre salaire.
Quand il y a un problème dans les écoles, il y a 4 collègues de malades, l'inspection répond pas. Mais alors par contre, quand il y a plusieurs collègues qui se déclarent grévistes, on a un petit coup de fil en disant « Comment ça va aller? Vous arrivez à gérer ?» Oui, voilà.
On se rappelle que vous existez ces jours-là.
Voilà. Oui, on perd de l'argent, on perd notre salaire. Voilà.
Nous, au lycée, ce qui se pose un peu différemment du primaire, mais bon, la journée de grève, c'est voilà, une journée, c'est un 1/30 du salaire en moins. Ça, c'est une réalité. Voilà. Maintenant, c'est le seul moyen qu'on a pour se donner justement les moyens de peser dans la période et puis de réfléchir, de travailler ensemble à la construction de ce qui peut peser avec d'autres secteurs, parce qu'évidemment qu'on bloque rien. Après, nous, en lycée, par contre, il y a aussi un élément, c'est que c'est pédago pour les jeunes.
Monsieur, pourquoi vous êtes en grève ?
Alors, il y a des discussions comme ça, bien sûr. C'est aussi leur montrer dans leur imaginaire que, ouais, il y a des moments où on peut dire non et rentrer dans des actions collectives.
Ça fait partie de l'enseignement.
Ouais, moi, je trouve aussi, parce que ça fait discuter. C'est vrai qu'on bloque rien, mais le fait qu'il y ait pas mal de collègues en grève, qui sont rentrés même en reconductible, avec toutes les difficultés que ça, en face, ils peuvent pas dire qu'il se passe rien. Parce que honnêtement, aujourd'hui, je pense que dans beaucoup d'endroits, ce dont on discute, c'est de ça. C'est de ce qui est en train de se passer autour des retraites. Et donc, nous, à notre modeste place, on participe à créer les conditions de ça. Et puis, de toute manière, moi, à un moment donné, pour s'affronter au gouvernement, pour le faire reculer sur des réformes ou obtenir de meilleures conditions, je vois pas comment on peut le faire autrement qu'à un moment donné, passer par la grève. Et puis montrer qu'elle est massive et tout. C'est-à-dire que, évidemment aussi, que ça doit être des grèves actives, c'est qu'on est là pour faire des choses. Il y a des manifestations, qu'il y ait du monde dans ces manifestations, ça participe aussi au truc. Donc voilà, c'est l'addition. On additionne tout ce qu'on peut faire. Et nous, on s'additionne aux cheminots qui bloquent un peu les transports, aux raffineries qui vont bloquer l'essence, à ceux qui vont aller bloquer des productions, etc. C'est pas le blocage pour le blocage, mais c'est à un moment donné pour... créer les conditions pour dire non, ça passe pas. Ça passe pas, donc on y va ou on n'y va pas. C'est aussi ça qui jouera. Mais c'est sûr que si on veut gagner, il va falloir que ça s'étende, que dans le privé, tout ça, il y en a d'autres qui rentrent dans la bagarre. C'est pas nous tout seuls qui allons porter le truc. Voilà.
Les amis, à travers vos deux personnes, Sylvain et Isabelle, merci à tous les gens qui ont le courage de faire grève et de se battre non seulement pour leurs propres droits, mais pour ceux de tout le monde. Merci à vous les amis et à bientôt dans la rue.
À très bientôt dans la rue. À très bientôt.
Là, dans 5 minutes.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette spéciale Prof en colère que vous pouvez réécouter sur notre site polémiquecestlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G.
Vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
Bonjour à toutes et à tous. Noël ne date pas d'hier et contrairement à son emblème, le Père Noël, ce n'est pas le capitalisme qui l'a inventé. Noël est avant tout une fête païenne que les chrétiens et les chrétiennes se sont appropriées au IVe siècle. Les historiens et les historiennes s'accordent à reconnaître que bien avant les